Avec Séverine Klöckner, nous allons vous faire une présentation à deux voix, si je puis dire, pour pouvoir évoquer avec vous une enquête qui a été menée auprès des usagers concernant le respect de leur liberté, car il nous semblait intéressant de pouvoir dépasser nos propres représentations pour aller chercher celles des patients que nous prenons en charge. Donc en fait, j'aborderai le contexte, mademoiselle Klöckner abordera la méthodologie et les résultats et je reprendrai la parole pour conclure sur les suites qui ont été données à cette enquête dans notre établissement. Donc en fait, le contexte, il remonte, si je puis dire, à 2006, puisque nous avions eu notre visite de certification HAS V2. Et lors de cette visite, donc, nous avions eu une recommandation donc, qui était la suivante, redéfinir la politique relative à la restriction de liberté de circulation lorsqu'elle est envisagée dans l'intérêt du patient reposant sur une réflexion éthique, en particulier en ce qui concerne la contention. Donc en fait, c'est un sujet qui nous a animés et qui nous anime toujours. En 2010, donc lors de notre visite de certification HAS, eh bien, nous avions donc constitué le comité d'éthique et dans ce cadre, donc, nous avons décidé de réaliser cette enquête auprès des usagers pour pouvoir avoir leur parole et pouvoir s'appuyer sur cette parole et sur les demandes et les besoins des patients pour pouvoir envisager des pistes d'amélioration et puis aussi essayer de répondre au mieux à leurs préoccupations.
Alors, au niveau de la méthodologie, au cours des années, on va dire 2008-2009, a été mis en place un groupe de réflexion sur la thématique donc des mesures de restriction de liberté, et de nombreux débats et questionnements ont animé les membres du groupe. D'abord, quel périmètre? Est-ce qu'on se restreint à la problématique initialement posée de la liberté de circulation, ou est-ce qu'on étend à l'ensemble du périmètre du respect des libertés des patients? C'est le choix qui a été opéré, et pour ce faire, il nous semblait indispensable d'avoir, bien sûr, l'avis des usagers sur ces thématiques. De ce fait, l'idée est de monter une enquête. Alors, oula. 8 réunions donc sur 2009-2010. Au niveau de la composition, on est parti donc sur une composition avec assez fortement aussi médicale, nombreux médecins présents et tous les responsables médicaux de pôle présents, les cadres supérieurs de santé, la direction des soins et puis nos partenaires, le représentant des usagers. On a élaboré une première trame et on a décidé, maintenant d'ailleurs ça devient un petit peu une habitude, de tester la trame auprès des membres du GEM géré par M. Huitfin, au niveau de l'association Normentalité. M. Peignet aussi était présent quand on a testé cette première trame. Elle a été donc modifiée au regard des remarques qui ont été formulées. Et ensuite, au niveau de la méthodologie, on a décidé de diffuser le questionnaire auprès de l'ensemble des patients pris en charge à temps complet, donc hospitalisation complète, appartement thérapeutique et post-cure. Et de le faire dans le cadre des réunions soignants-soignés. Alors, l'idée, c'était vraiment d'avoir un temps de présentation de la démarche dans une dynamique pédagogique pour aussi expliquer aux usagers quels étaient les objectifs. Alors, certains ont refusé de répondre, mais on a quand même eu pas mal de réponses. Et là, je vais vous présenter les principaux résultats. Alors, vu le temps, je vais passer vite. Sachez que le document vous est transcrit dans les pochettes, donc vous pourrez vous y reporter. Alors, sur les thématiques, on a été assez loin. Donc, la thématique du téléphone portable, le sujet sera repris par la suite. Je vais peut-être insister sur un des questionnements qu'on avait, nous, par rapport à ce recours au téléphone portable, qui est la fonction photo. C'était une grande thématique souvent abordée chez nous, avec une crainte majeure de non-respect du droit à l'image des autres usagers. Donc, c'est une question qu'on a insérée dans le questionnaire, et on voit votre droit à l'image a-t-il été préservé? Oui, à 93%. Donc l'inquiétude qu'on avait n'est pas relayée par les usagers. Néanmoins, il faut rester bien sûr vigilant sur cette thématique. On a abordé un autre thème récurrent en psychiatrie et toujours problématique, qui est celui des biens, des objets de valeur et des effets personnels. Et avec une question, on va dire, plus ciblée pour les effets personnels que les usagers souhaitent garder avec eux. Est-ce qu'ils ont été confrontés à des difficultés? On a un retour, effectivement, on a à peu près un cinquième des usagers qui nous remontent qu'ils ont été confrontés à des difficultés. Ça va dans le sens de ce qu'on avait constaté par le biais des plaintes et réclamations, des retours que font les usagers auprès des équipes, mais au moins on l'a chiffré, et c'est quand même inférieur à ce à quoi on s'attendait. Donc là aussi, petite surprise. Là aussi, de gros efforts encore à fournir dans nos établissements sur cette thématique.
Tous ceux qui n'ont pas dit oui ou dit non.
Voilà, donc 80%, effectivement, voilà. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de difficultés à remonter. Voilà, mais là c'est vrai que j'ai ciblé parce qu'on est dans la marge d'amélioration, tout à fait. Alors, thématique essentielle, le respect de l'intimité. Selon vous, votre intimité est-elle respectée? Oui, à 89%. Sachant qu'on était encore à l'époque sur toutes les structures nouvelles qui ne sont pas encore ouvertes, donc on a encore quelques chambres encore doubles, hein, même si dans les projets architecturaux on va évoluer vers des chambres exclusivement individuelles, sauf lorsque l'état clinique nécessite un accompagnement ou l'usager souhaite être en chambre double. Donc sinon, pourquoi, dans quel cadre donc votre intimité, vous ne la jugez pas respectée? Là, je vous ai donné des extraits parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires faits par les usagers. Je ne peux pas faire ce que je veux, je suis en chambre double. Je suis souvent dérangée par les soignants dans ma chambre. On frappe à ma porte, mais on n'attend pas la réponse avant d'entrer. Je pense que ça, c'est voilà, un enseignement. Lors de votre hospitalisation, avez-vous été confronté à des difficultés concernant votre vie affective et sexuelle? On a fait le choix d'aborder cette thématique auprès des usagers. Alors, oui à 24%, et dans les difficultés remontées, avoir été sous contention et déshabillé. Difficulté à avoir un peu d'intimité, notamment en salle de visite, embêté par les autres résidents. Et impossibilité de discuter dans la chambre avec une personne de sexe opposé sans que cela ne donne lieu à une peur de relation non amicale. Voilà, c'est des retours qui sont aussi riches d'enseignements. La visite des proches, un point aussi essentiel hein, dans ce droit du respect des libertés. Donc on voit qu'à peu plus des deux tiers des usagers nous ont répondu recevoir de la visite. Et lorsque ce n'était pas le cas, on a plusieurs raisons évoquées, des horaires inadaptés ou des visites non autorisées, le souhait de ne pas voir ses proches, quand même pour 11% d'entre eux, ce qui est quand même important, et lieu de soins trop éloigné du domicile des proches, on est encore à 18%, même si à terme ça va se résoudre, puisque le choix, en tout cas notre établissement, c'est d'implanter les unités d'hospitalisation plus près du domicile des personnes. Donc après des démarches d'amélioration sur les plages horaires et les lieux de visite. Alors, point aussi essentiel, et d'ailleurs c'est un slide complet, le respect des convictions religieuses. Donc, l'organisation de la prise en charge vous permet-elle de pratiquer vos convictions religieuses de manière satisfaisante? Oui, mais petit oui, 63%. Et les raisons de mécontentement sont l'impossibilité de se confesser tous les dimanches, le manque d'une chapelle au sein de l'établissement, personne ne peut me conduire à l'église, pas assez de livres pour méditer, mes convictions sont considérées comme une pathologie à soigner. Un peu les retours. Avez-vous ressenti des attitudes ou des incompréhensions, voire des hostilités à l'égard de vos convictions religieuses? On a quand même oui à 27%. Si oui, lesquelles? Certaines personnes me dérangent lorsque je prie. Mes convictions sont considérées comme une pathologie. On fait des remarques ironiques. On ne me permet pas de prier le dernier tiers de la nuit. Et enfin, commentaires et suggestions. Alors, c'est très intéressant. La personne a répondu qu'elle aimerait avoir un prêtre ou un aumônier pour expliquer la raison d'être là. Donner sa vraie place à la religion dans les soins, laissez-moi seule avec Dieu. Là, on est sur une approche plus pratico-pratique, souhait de mise à disposition de livres sur la religion et d'exposition dans les salles communes d'un objet religieux comme le Christ ou la Vierge. Un petit peu sur cette thématique. Après deux thématiques importantes qui ont été abordées, les entrées et sorties d'unité et la libre circulation au sein de l'unité, je vais essayer de synthétiser. Donc ce qui apparaissait essentiel, c'est lorsque l'accès à la chambre est limité, est-ce que la personne juge que l'explication donnée est suffisante? On a un oui à 62%. Donc là aussi, la pédagogie est à renforcer. Est-ce que cette limitation d'accès gêne? On a quand même, oui, souvent 25%, oui, parfois 39%. Mais on a quand même un peu plus du tiers que ça ne gêne pas. On s'attendait à avoir plus de retours négatifs sur cette thématique. Est-ce qu'ils souhaiteraient pouvoir fermer eux-mêmes leur chambre, puisqu'on est dans le cas d'évolution architecturale où certaines unités vont avoir des systèmes de clés ou de codes d'accès? On a un oui, mais à 60%. Là aussi, petit étonnement, on s'attendait à un oui plus franc. Et puis on a demandé, à l'issue de ces deux questions, globalement, de coter leur sentiment de liberté au cours de leur séjour sur une échelle de 1 à 10, 1 étant un sentiment quasi inexistant de liberté et 10 un sentiment complet de liberté. On obtient une moyenne à 6 sur 10, avec, on va dire, 22%, 22-23% des personnes qui ont un sentiment de liberté très réduite, 30% de liberté, on va dire, moyenne, et 40-41% grande liberté. Alors, on aurait pu, mais on n'a pas fait le choix de faire le lien avec le mode de soins, puisque c'était saisi dans l'enquête. On a voulu un peu le déconnecter, même si tous les secteurs, vous le verrez, ont reçu leurs résultats et ont pu le faire unité par unité pour ensuite réanalyser les choses. Et puis, je termine. Dernière thématique, le tabac. Alors, êtes-vous fumeur? Oui, à 65%. Hein, ça renvoie, je pense, à d'autres retours qu'on a eu récemment hein, sur cette question au niveau national. Pouvez-vous fumer librement? Oui, à 70%. Sinon, pourquoi? Donc, les raisons sont claires. Avis médical, nombre de cigarettes limité, obligé d'aller fumer dehors l'hiver, il fait froid, des horaires à respecter, une limitation pour ma santé. Pensez-vous, alors est-ce que vous pouvez garder vos cigarettes sur vous? On voit que c'est majoritairement hein, le cas, 84%. Et sinon, comment vivez-vous cette interdiction? 43% la vivent très mal, pour 28% d'entre eux, c'est quand même parfois difficile, et 29% le vivent bien. Vous a-t-on proposé une aide au sevrage tabagique? Oui, 35%. Donc là, on a une marge de progrès, je laisserai ma collègue en parler après. Et puis, autre question qui nous intéressait, vous êtes non-fumeur, est-ce que vous avez été gêné par le tabac au cours de votre hospitalisation? Non, à 75%. C'est un bon score, mais à améliorer encore.
Donc, lorsque nous avons eu l'ensemble de ces résultats, donc en fait, on a fait un retour des résultats donc, avec une analyse secteur par secteur pour que l'ensemble des pôles puissent voir quelles étaient les pistes de progrès et pouvoir effectivement les mettre en place. Donc ensuite, comme je disais, il y a une analyse donc par les services pour la réalisation de ces actions correctives. Et puis, on a présenté ces résultats en comité d'éthique, en CME, en CRUPPC et en CSIRMT. Les exemples d'actions d'amélioration qui ont été menées, donc évidemment c'est toujours en cours puisque le chantier est très important. Tout d'abord c'est le fait de pouvoir revisiter l'aménagement de nos salles de visite pour pouvoir respecter l'intimité des patients et de leurs proches puisque c'est un moment où effectivement parfois il y a besoin je dirais d'une surveillance et c'est important que les patients puissent avec leurs proches avoir des moments d'intimité et donc aménagement des salles de visite pour faire en sorte d'éviter la promiscuité. Nous avons inscrit également, je dirais, ce projet dans le projet de soins. Ensuite, nous avons également réorganisé les soins pour pouvoir faciliter l'accès libre aux chambres, puisque c'est aussi quelque chose qui n'était pas forcément inscrit dans nos pratiques et les patients nous ont demandé pour avoir plus de temps où ils pouvaient, je dirais, bénéficier de cet accès libre aux chambres. Donc on a retravaillé aussi sur nos organisations. L'élargissement aussi des horaires d'ouverture, donc des espaces de vie pour les patients. Une organisation des soins qui permette la liberté d'aller et venir, notamment pour les patients en soins libres, mais aussi pour pouvoir faciliter la liberté d'aller et venir pour les patients en soins sans consentement et éviter ce sentiment, en tout cas, d'enfermement. L'aménagement donc aussi de tous les nouveaux locaux en vue de permettre à l'usager la sécurisation de ses effets personnels, puisque comme Mlle Kopner vous l'a dit, c'est vrai qu'il y a une demande très importante. Donc là, on est en train de réfléchir sur un système d'armoire qui ferme à clé ou de porte avec des systèmes de cartes électroniques d'accès, donc ce qui nous évitera la perte des clés, qui est souvent une difficulté. La poursuite aussi des aménagements architecturaux, on a de nouvelles structures qui vont s'ouvrir et donc là aussi notre intention elle est de favoriser les chambres individuelles pour justement préserver l'intimité du patient. Ensuite, favoriser aussi toutes les actions d'éducation à la santé pour les patients qui présentent une addiction au tabac et puis les accompagner dans les programmes d'éducation thérapeutique, mais là aussi en respectant bien évidemment le souhait du patient, je pense que c'est important. Nous avons également l'intention de réaliser un protocole qui concerne l'utilisation du téléphone puisque c'est quelque chose qui est souvent intégré dans le projet, dans le contrat de soins, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est un objet qui est largement utilisé, donc c'est vrai que c'est parfois difficile de mettre en place des temps où la personne peut l'avoir ou pas. Et puis aussi, donc, poursuivre la vigilance quant au respect du droit à l'image, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Alors, la principale piste de progrès institutionnel, c'est le respect des convictions religieuses et la possibilité de mettre à disposition un lieu de culte pour toutes les confessions sur les différents sites, puisque nous avons à la fois, je dirais, des lits d'hospitalisation sur Armentières, sur Seclin, sur Tourcoing, sur Lille bientôt. Et donc, là aussi, c'est parfois compliqué, mais en tout cas, on va essayer de trouver des solutions. Je terminerai mon propos en disant que, en fait, cette enquête, elle nous a permis de donner la parole aux patients. Elle nous a permis aussi de revisiter toutes nos représentations, puisqu'il y a eu certaines surprises dans les résultats qui étaient attendus, où nous étions tous convaincus qu'on allait avoir tel ou tel type de résultat, et puis finalement, on s'est rendu compte que les patients avaient une toute autre représentation de la restriction de la liberté d'aller et venir. Et puis aussi, pour nous, c'est un outil précieux sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir améliorer sans cesse nos organisations, mais aussi notre architecture et puis aussi tout ce qui donc permet le respect de cette intimité dans ce moment qui, comme nous le savons, que l'on soit d'ailleurs hospitalisé en psychiatrie ou en MCO, le temps d'hospitalisation est souvent vécu comme un moment d'enfermement et de restriction de notre liberté d'aller et venir. Donc nous allons continuer, à travailler sur ce sujet fort de la parole de nos patients.